Midi 1. Mariam, matin famille.
Et merci à vous de nous rejoindre où que vous soyez. Chez également sur Média.com, sur notre application Média Radio. Nous sommes ensemble et en direct. Et avec nous, en direct également, elle est fidèle au rendez-vous, notre spécialiste en gynécologie et obstétrique, docteur Basma Koubaïti. Bonjour.
Bonjour Marianne, bonjour aux fidèles auditeurs de Média.
Et merci
toujours
beaucoup.
Toujours un plaisir
merci.
De faire partie de la team.
Merci beaucoup à vous. Et c'est un plaisir, bien évidemment, pour nous également, de vous recevoir comme toutes les semaines. Alors aujourd'hui, je le disais en tout début d'émission, on parle de l'accouchement par voix basse après une césarienne. Alors après une première naissance par césarienne, est-ce qu'on peut donner la vie par voix basse? C'est la question que se posent beaucoup de femmes. On tente donc d'y voir plus clair aujourd'hui, grâce à vous. Alors d'abord, la césarienne, c'est quoi?
Alors effectivement, c'est une question que se posent beaucoup de femmes. Est-ce qu'on peut accoucher par voix basse après une césarienne?
Oui.
Mais déjà, il faut savoir pourquoi cette césarienne a été faite, quand est-ce qu'elle a été faite, et pour pouvoir un peu discuter du pronostic de cette voix basse après une césarienne. Déjà, il faut savoir que la césarienne, c'est une intervention chirurgicale, c'est pas un geste anodin.
Oui.
Il a pour but de pouvoir mettre au monde le bébé via une incision qui est faite dans le ventre et l'utérus de la mère. Elle a ses avantages et ses inconvénients, et comme tout acte chirurgical, elle comporte également des risques.
Absolument. Alors, dans quel cas, justement, faut-il avoir recours à la césarienne?
Alors, il faut savoir que la décision d'une césarienne est faite en fonction de plusieurs choses. L'état de la mère, l'état du bébé. Donc, on peut être amené à faire une césarienne programmée, planifiée, avant toute contraction. Tout comme le médecin peut être amené à faire une césarienne d'urgence.
D'urgence, d'accord.
Cette césarienne programmée, elle a pour but de protéger soit la santé de la mère, ou quand les conditions obstétricales ne sont pas favorables, ou si le bébé est un peu dans de mauvaises conditions, on va faire à ce moment-là une césarienne programmée.
D'accord.
Elle sera donc planifiée si jamais la position du bébé est en siège ou transverse, c'est-à-dire les petites jambes en bas et non pas la tête, si le bébé est en position transversale dans le ventre, c'est-à-dire qu'il a le dos, la tête d'un côté à droite et les jambes à gauche, et au niveau du pubis, il n'y a rien du tout, c'est vide. Soit on a un bébé qui ne prend pas suffisamment de poids, qui présente un retard de croissance, c'est en général des bébés fragiles. Soit si la naissance précédente par césarienne était suite à une cause permanente, et donc la maman ne peut en aucun cas accoucher par voie basse une autre fois. Soit si le placenta, et donc le placenta qui est hypervascularisé, est mal positionné sur l'utérus, c'est-à-dire qu'il recouvre le col ou qu'il est incrusté dans le muscle utérin. Donc ça, c'est des cas qui sont un peu particuliers et qui sont délicats à gérer. Soit si la maman présente une maladie qui ne lui permet pas d'accoucher par voie basse, parfois on a des états graves tels que la préclampsie, un diabète entraînant un surpoids chez le bébé ou des mesures très élevées du périmètre abdominal qui empêchent la voie basse. Soit on a parfois on a des patientes pour qui tout va bien, le bébé va bien, la maman se porte bien, il n'y a pas il n'y a rien qui contre-indique de façon physique la voie basse, mis à part certaines infections qui sont actives, tels qu'un herpès actif ou des condylomes, des verrues génitales présentes qui n'ont pas été prises en charge avant l'accouchement et donc qui contre-indiquent une voie basse dans l'immédiat. Mais après, donc ça, c'est quand on va planifier cette césarienne.
D'accord.
Mais souvent, le médecin est amené à faire des césariennes en urgence.
En urgence,
donc,
justement.
Donc, tout se présente correctement, tout va bien, mais le médecin se voit dans l'obligation de pratiquer en urgence une césarienne. On a également plusieurs cas de figure. Un travail qui ne progresse pas, c'est-à-dire un col qui ne veut plus se dilater, et ce, malgré plusieurs heures de contraction forte et régulière, en ayant mis en place tous les essais pour aider cette femme à accoucher par voie basse, et ça se présente mal. Soit parfois, on a l'inverse, un col qui s'ouvre à 10 cm, comme on le veut, mais une tête qui ne descend pas, donc ça s'appelle un défaut d'engagement à dilatation complète. Ça, c'est plus délicat parce qu'en général, la femme a déjà fait tout le travail, c'est psychologiquement assez dur à accepter, mais le médecin n'a pas d'autres moyens. Exactement. Et on a également les urgences fœtales. Les urgences fœtales, c'est quoi? C'est tout se présente bien, mais à un certain moment, le rythme cardiaque du bébé chute. Il est censé se positionner entre 120 et 160, mais quand il descend de façon répétitive et et fréquente. À ce moment-là, c'est un bébé qui est en souffrance. On doit le faire sortir par voie haute, surtout si on est au tout début du travail et que l'accouchement n'est pas imminent. On a également un virage du liquide amniotique. En général, le liquide est censé être translucide, comme de l'eau, mais là, s'il devient vert, il traduit une baisse d'oxygène dans le sang fœtal, une hypoxie fœtale. Cette hypoxie va se traduire par l'émission des premières selles du bébé dans le liquide amniotique et ça peut être dangereux. Donc il faut faire une césarienne en urgence quand l'accouchement n'est toujours pas imminent. C'est-à-dire quand on est à dilatation complète, que l'accouchement va se faire dans les 5-10 minutes, il n'y a pas de problème, ou dans la demi-heure, il n'y a pas de problème. Mais si on est à peine au tout début du travail, là c'est problématique et c'est risqué pour le bébé, donc on est amené à faire une césarienne en urgence.
D'accord. Alors, on a l'impression que cela arrive de plus en plus, plus souvent qu'avant. Est-ce que c'est juste une impression ou c'est vraiment ça?
Les statistiques parlent, il y a effectivement un peu partout dans le monde une augmentation du taux de césarienne depuis que l'accouchement a été médicalisé. C'est-à-dire, la femme se présente dans une structure hospitalière pour accoucher. Donc, on surveille de près ce bébé, on apprécie son bien-être avec le monitoring, on surveille ses liquides amniotiques dans le but de réduire tout ce qui est retard psychomoteur. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que quand le bébé est en hypoxie, c'est ses neurones qui sont mis en jeu et donc on a des bébés qui vont soit tarder à s'asseoir, à marcher, l'intelligence et la croissance physique du bébé peuvent être impactées par cette hypoxie fœtale. Certains médecins évitent de prendre trop de risques par peur de ce qui peut s'observer par la suite. D'accord ? Après, effectivement, il y a également la césarienne de convenance. On a également des patientes qui ne veulent pas souffrir, qui ont peur de la douleur. Nous, en tant que médecins, on est dans le devoir de les conseiller, de les orienter, de leur présenter les avantages et les inconvénients de chaque voie d'accouchement pour qu'elles puissent prendre conscience de l'intérêt de la voie basse, mais également des risques de la césarienne. Et au final, parfois, on est amené à faire une césarienne de convenance car la patiente et intransigeante sur la chose.
D'accord. Alors, justement, vous parlez de risques, docteur Basma Koubaïti, quels pourraient en être les risques?
Alors, il faut savoir que, en général, les césariennes se déroulent bien. Mais comme tout acte chirurgical, on a également des conséquences et des risques. Donc, il y a déjà la gestion de la douleur post-opératoire. Les 3 à 4 premiers jours sont parfois difficiles en attendant que la patiente émette ses gaz, le ballonnement intestinal, les douleurs de la cicatrice. On a également le risque d'infection. La césarienne n'est pas un acte stérile à 100%. C'est un acte qui est à risque d'infection. Parfois, on voit de ces choses, les patientes qui sont un peu en colère car avec un médecin X, il y a eu une infection de la cicatrice. Mais il faut savoir que ce n'est pas le médecin qui est en cause, ce n'est pas le matériel opératoire avec lequel on a travaillé, mais on a le tissu graisseux sous-cutané, les conditions de la césarienne, est-ce qu'elle a été planifiée, la patiente a eu le temps de prendre sa douche pré-opératoire, ou c'était une césarienne en urgence avec un liquide teinté, donc avec des risques d'infection qui sont là.
D'accord.
On a également le risque hémorragique. Il faut savoir qu'une femme, au cours d'une césarienne, va saigner beaucoup plus qu'une simple voie basse. En moyenne, au cours d'une voie basse, la femme va perdre 1 demi-litre de sang. Et dans une césarienne, elle va perdre 1 litre à 1,5 litre de sang en fonction du temps opératoire écoulé, des difficultés opératoires rencontrées. Il y a également le risque de coagulation, comme tout acte opératoire, la position d'alitement prolongé qui va suivre dans les 12 à 24 heures après la césarienne et l'état d'hypercoagulation sanguine qui accompagne la grossesse expose la femme après l'accouchement par césarienne à des troubles de la coagulation. Donc la patiente sera mise pendant une durée d'une semaine à 10 jours sous traitement anticoagulant sous forme d'injection quotidienne et on lui demandera d'être un peu plus active et pour favoriser la circulation sanguine et éviter les phlébites. Il y a également la dépression postpartum en général. Quand on a une césarienne d'urgence, que la maman n'est pas préparée à la césarienne.
Donc c'est le côté psychologique, d'accord.
Psychologique, voilà, chez la maman, on a 40% de femmes qui vont faire plus de dépression au décours d'une césarienne qu'au décours d'une voie basse.
D'accord.
Et on a également le risque de détresse respiratoire chez le bébé. Donc 4% des bébés nés par césarienne peuvent ne pas respirer correctement. C'est des bébés dont les poumons n'ont pas évacué la totalité du liquide en sortant. Donc, et là encore, on a du mal avec les parents parce que c'est un risque indépendamment de l'âge durant auquel va être faite la césarienne, soit qu'elle soit faite un peu tôt ou un peu tard. c'est des bébés qui sont prédisposés à nous faire ces petits problèmes.
Ces cas donc où vous déconseillez la césarienne patiente, quels seraient donc ces cas?
Alors déjà, on ne peut pas déconseiller à 100% la césarienne. C'est pas possible parce que parfois, on est amené à faire une césarienne en urgence. Donc c'est quelque chose qu'on doit garder de côté. C'est quelque chose qui, c'est un plan B qui est parfois nécessaire et indispensable. Donc on ne peut pas la déconseiller de façon formelle. Par contre, si une patiente ayant un peu mal, qui n'arrive pas à gérer sa douleur, on va lui préconiser une péridurale pour pouvoir au mieux gérer ses angoisses et ses douleurs et l'accompagner dans sa voie basse correctement, que de faire une césarienne par peur de la douleur. Vous avez compris?
D'accord, très bien. Alors, accoucher par voie basse justement, est-ce que c'est possible lorsqu'on a déjà accouché précédemment par une césarienne?
Alors oui, c'est possible et il faut savoir qu'en général, 40% des femmes ayant fait une césarienne arrivent à accoucher par voie basse après cette fameuse césarienne.
D'accord.
Il y a bien sûr certaines conditions à préciser avec la patiente.
Oui.
Donc déjà, il faut connaître la cause de la première césarienne. Est-ce que c'est une cause permanente, une patiente dont le bassin est rétréci? Est-ce qu'elle a un problème qui l'empêche d'avoir une maladie X, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'il y en a énormément, qui empêche d'accoucher par voie basse ou qui expose la vie de la femme à plus de risques d'accoucher par voie basse que par césarienne? Et la durée entre les deux grossesses, c'est-à-dire entre le moment où elle a accouché et le moment où elle est de nouveau tombée enceinte, les recommandations sont d'un an pour pouvoir avoir une cicatrice qui est solide. Car accepter un accouchement par voie basse, c'est également accepter le risque de rupture utérine, car la cicatrice, on ne peut pas apprécier sa solidité. On vérifie certes à l'échographie ou par hystéroscopie qu'elle est bien fermée, qu'il n'y a pas d'ouverture. Mais est-ce qu'elle va résister ou pas aux contractions? Enfin, on ne le sait pas. Donc, les patients doivent être avisés du risque. On prend le temps de leur expliquer le risque. Il est certes de 1%, mais quand on est exposé à ce risque-là, il faut également accepter le risque de passer en césarienne et de rebasculer.
D'accord. Alors,
il y a d'autres conditions. Il faut aussi que le bébé soit en présentation céphalique stricte et on ne déclenche pas le travail. Au Maroc, pour accepter une voie basse après césarienne,
oui,
le travail doit être spontané, c'est-à-dire qu'une femme dépassant son terme ayant déjà une césarienne ne pourra pas bénéficier d'un déclenchement artificiel des contractions utérines.
D'accord.
Car ça nous expose à plus de risques de rupture.
Mmh, d'accord, parfait.
Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a des choses à éviter à moyen et à long terme, docteur Basma Koubaïti?
Donc, en fait, après une césarienne, il est recommandé à la patiente de prendre soin d'elle. Donc, la rééducation abdominale et périnéale sont nécessaires parce que le poids du bébé pendant les 9 mois, le relâchement ligamentaire, le surpoids pris par la maman, donc l'excès, les kilos en excès, vont entraîner des douleurs de dos, mais également des fuites urinaires qui peuvent s'observer sur le long terme. Donc, il faut se prendre en main, manger mieux, améliorer sa posture au moment de l'allaitement pour ne pas se fier au fait, parce qu'on entend souvent dire les femmes, j'ai eu une césarienne mais je garde des séquelles sur mon dos. Non, c'est pas la césarienne qui donne les séquelles, c'est les mauvaises postures, l'absence de rééducation, l'hyperlaxité ligamentaire, le relâchement musculaire. Donc tout ça, ça entraîne des conséquences sur le long terme.
D'accord.
Il faut aussi, si on a envie d'avoir cette voie basse, il faut aussi réfléchir à la durée entre les deux grossesses, ne pas faire des grossesses très rapprochées pour se donner plus de chance. Il faut marcher quand on a envie que cette voie basse fonctionne, que votre médecin vous donne le feu vert, que tout est OK pour lui, que votre radio du bassin est normale, que le poids du bébé est correct. Il faut se donner les moyens, c'est-à-dire marche, parce qu'on ne peut pas déclencher le travail. Donc il faut marcher, il faut monter des escaliers, faire des exercices de préparation à l'accouchement pour mieux gérer sa respiration, gérer un peu son angoisse, mais également être préparé psychologiquement au fait que ça peut basculer de l'autre côté et qu'on peut être de nouveau amené à faire une deuxième césarienne.
Mille merci à vous, docteur Basma Koubaïti, d'avoir été avec nous et en direct. Je rappelle que vous êtes spécialiste en gynécologie obstétrique à Rabat. Merci encore une fois d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Bonne journée.
Bonne journée. Et c'est un entretien bien évidemment réécoutable en intégralité sur notre site medien.com.